d'un vigneron à l'autre, c'est le même terroir, mais il va y avoir les mêmes descriptions de style. Et c'est ça qui est assez génial. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir du Sancerrois. Et c'est ce côté travail sur l'infiniment petit, quoi. C'est génial, quoi.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine, pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
Allez hop, en route pour Sancerre, ses terres blanches, son silex, son pinot noir et son sauvignon blanc mondialement reconnu. Premier arrêt dans ce magnifique village, au domaine Vacheron, où Jean-Dominique nous accueille avec un large sourire. Après avoir déambulé avec lui au milieu des travaux du chai titanesque qu'ils sont en train de construire, nous nous dirigeons vers une petite salle, intime, aux murs couverts de bouteilles des plus beaux millésimes du domaine. C'est là que Jean-Dominique s'est ouvert à nous, avec ce sens du partage, typique du Sancerrois.
Bonjour Jean-Dominique Vacheron.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir dans ce magnifique endroit. On est au cœur du domaine Vacheron, ici à Sancerre.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît?
Donc Jean-Dominique Vacheron, vigneron à Sancerre. Voilà, depuis 93, je travaille avec mon père, mon oncle et mon cousin sur le domaine, voilà, et en plein milieu de Sancerre, tout en haut du Piton.
Ouais, ouais. On a eu du mal à arriver en voiture ici, là. Il faut se faufiler dans les petites rues, on est au cœur du village.
Vaut mieux savoir conduire et avoir une bonne marche arrière.
Alors, c'est un domaine assez important par la renommée à Sancerre, c'est un domaine aussi assez important par la surface. Pourtant, ça fait trois générations que le domaine se construit et vous êtes parti d'assez loin. Est-ce qu'on peut faire un petit historique du domaine et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on construit un domaine de cette taille et de cette réputation, s'il te plaît?
Oui. En fait, l'origine est difficile à déterminer, mais bon, il y avait un arrière-grand-père qui faisait de la polyculture, c'était vraiment une ferme en plein milieu de Sancerre. Mon arrière-grand-père, qui a repris derrière son père, était quelqu'un qui avait fait des bonnes études, qui était intellectuellement assez bien bâti, et qui a continué la polyculture avec des chevaux, des chèvres. Mais sa passion, c'était le vin. Il était marié avec Renée, sa femme qui faisait, elle, les crottins de Chavignol. Donc l'historique du domaine est parti avec un hectare de vignes et du crottin de Chavignol qui, je le rappelle, dans cette période-là, avant-guerre, le crottin de Chavignol rapportait plus d'argent que le vin à Sancerre. Donc on est issu de là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que mon grand-père a toujours utilisé son argent pour acheter des terrains, a fait beaucoup de remembrements, des terrains que personne ne voulait, lui les a achetés. Par exemple, les Romains, c'était 150 parcelles qui ont été remembrées. Aujourd'hui, c'est des terrains que personne ne voulait parce que trop de cailloux, grosses pentes, pour les moutons, les chèvres, tout ça, c'était pas terrible. Donc lui, il a tout remembré, défriché et planté gentiment. Et je dirais que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est toujours construit à échelle humaine. On n'a jamais eu de grand développement, mais c'est petite plantation par petite plantation qu'on arrive aujourd'hui à une cinquantaine d'hectares. Mais ça s'est fait sur trois générations et petit à petit, tout a été planté par des mains vacherons. Et c'est ça qui est intéressant dans notre histoire.
C'était quoi son idée dans ce remembrement? Il avait déjà une vision viticole en achetant ces terrains?
Alors, il avait déjà une passion extrêmement forte. Hein, très paysan dans son approche, mais dans le bon sens du terme, avec toujours une idée de vouloir faire très très bien. Et voilà, lui, pour juste citer une petite anecdote qui le caractérise, son père lui a donné de l'argent pour acheter une bague de mariage à sa femme. Il est revenu avec une vache, donc pour dire que l'argent n'était pas dépensé n'importe comment chez nous.
Donc aujourd'hui, il y a 50 hectares.
Oui.
Et c'est quand même un petit tour de force. Tout est sur la commune de Sancerre.
Voilà, oui, il y a 36 arts qui sont sur la commune d'à côté. Mais oui, tout c'est sur la commune de Sancerre. La particularité du domaine, c'est qu'on est sur la faille de Sancerre. Donc, on a 50% de terre calcaire, 50% de terre silex. On a un petit peu de marne de Crétacé. Mais tout le domaine est sur la faille de Sancerre. Donc, ça, c'est assez génial parce qu'on a, ces deux terroirs assez différents qu'il ne faut pas gérer de la même manière. Et abordé pas du tout de la même manière d'ailleurs.
Alors est-ce qu'on peut les examiner un petit peu en détail ? C'est quoi les différences ? Et déjà en termes d'origine, et après, qu'est-ce que ça implique en termes de viticulture ?
Alors en termes d'origine, vous avez un terroir qui est très très jeune, c'est les sols silex, c'est 45 millions d'années. En 5 mètres plus loin, vous avez des calcaires 150 millions d'années. Et donc le calcaire vient d'une roche mère, le silex c'est la mer qui est venue plusieurs fois, il a fait chaud et ça s'est aggloméré, c'est ce qui a créé les silex. Et donc du coup, deux terrains qu'il faut aborder totalement différemment, tant au niveau viticulture qu'au niveau vinification. Et date de récolte, là pareil, on a appris avec le temps qu'il ne fallait pas les gérer de la même manière et vous ne cherchez pas tout à fait les mêmes maturités.
En termes de viticulture, qu'est-ce qu'il faut... c'est quoi les différences ?
Alors, les silex se réchauffent un petit peu plus vite au printemps. On a des terrains qui peuvent être parfois un peu battants. Donc, ça fait longtemps qu'on a trouvé la solution de laisser de l'herbe dans les vignes.
Ça déboure plus vite ?
Ouais, ça déborde un peu plus tôt, ouais. Et l'herbe pousse plus vite au printemps, donc c'est beaucoup plus difficile à travailler parce qu'on est vite débordé au printemps avec les labours. Si on se loupe, là, on a quelques bonnes semaines de galère derrière. Donc, il faut vraiment pas louper ces terrains-là. Et puis, voilà. Je dirais que c'est des terrains qu'il faut travailler au bon moment. Voilà, c'est surtout ça qui est important parce que sinon, on va avoir des sols un peu ça va faire des mottes, ça va s'agglomérer un peu. Et comme il y a beaucoup de cailloux, si on n'a pas une terre douce, voilà, c'est beaucoup plus dur à gérer, quoi.
Et sur la partie calcaire ?
Sur la partie calcaire, alors il y a différentes formes de calcaire, Sancerre, il y a trois grands types de calcaire, mais généralement, c'est des terrains où il y a il y a quand même du caillou, mais il y en a un petit peu moins. Et on a la chance sur Sancerre d'avoir des argiles assez fines, donc ça se travaille plutôt pas trop mal, quoi.
T'es en train de parler de viticulture, juste avant, dans l'introduction, t'as parlé d'approche paysanne. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'approche paysanne ?
C'est plein de bon sens, en fait. C'est de réfléchir, de bien réfléchir avant d'agir. Comme je vous l'ai dit, le domaine s'est créé à l'économie, parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc... avant de mettre un produit, faire quoi que ce soit, on essaie de le faire avec raison et de toujours bien réfléchir les gestes. Alors c'est pas qu'on veut travailler à l'économie, mais c'est qu'on veut le superflu ne nous intéresse pas, quoi. On est pragmatique, on veut que ça soit efficace, quoi. Et quand on connaît nos terrains qui ont beaucoup, beaucoup de cailloux, avant de se jeter dans une parcelle, on réfléchit à deux fois, quoi.
Tu as évoqué ton arrivée au domaine,
ouais.
En 93.
Ouais.
Tu travailles aujourd'hui aussi avec ton cousin.
Voilà, je travaille avec Jean-Laurent, mon cousin.
Vous êtes arrivé en même temps au domaine ?
Non, il est arrivé un tout petit peu après moi, mais on avait la même passion du vin et le même amour de la Bourgogne. Donc on est... puis on a été à Beaune à peu près au même moment, à l'école. Donc on est dans les mêmes raisonnements et schémas de travail, quoi.
Quand est-ce que tu es tombé dans la marmite, toi, du vin ?
J'ai pas l'impression, depuis toujours.
C'était évident de devenir vigneron ?
En fait, on a toujours été dans les pattes de nos pères, donc ça arrivait assez naturellement. Et je connais personne qui n'est pas dans le vin dans la famille. Donc on y tombe assez rapidement et c'est vrai que c'est un métier qui est vite assez attirant, quoi.
les études en Bourgogne, c'était un choix délibéré ou c'était un peu le destin?
C'était un peu les deux. Je dirais qu'on est quand même tourné vers la Bourgogne à Sancerre. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on est dans la Loire, mais finalement, le reste de la Loire est finalement aussi loin que la Bourgogne. On préfère aller vers la Bourgogne, même si on renie pas nos origines ligériennes. Mais voilà, la Bourgogne, on a beaucoup appris de la Bourgogne, on a beaucoup à apprendre encore. Parce que voilà, c'est cette idée de petite parcelle travaillée par des gens qui sont à la vigne et à la cave, qui réfléchissent tout, qui sont propriétaires. Et donc ça, c'est un modèle qui nous convient très très bien.
Alors, depuis que tu es arrivé au domaine, on en a parlé un petit peu hors micro, il y a eu des gros changements. Sans parler du changement qu'on a vu là en faisant la visite et en termes d'installation. Mais avant que tu arrives, il y avait trois vins.
Voilà.
Un blanc, un rouge,
ouais.
Un rosé.
Ouais.
Aujourd'hui, il y en a...
Il y en a un petit peu plus.
Voilà, Voilà. Vous avez commencé à travailler en bio.
Voilà.
En biodynamie.
Ouais, en même temps, ouais.
Voilà, vous êtes certifié sur les deux.
Ouais.
Donc c'est quand même des. T'as apporté des changements très importants.
Alors chez
au
nous,
domaine.
On dit on parce que ouais. On travaille avec tout le monde et c'est vrai qu'avec Jean-Laurent, on a la chance d'avoir eu deux pairs qui n'étaient pas du tout, qui étaient des gens très très modernes, qui sont des gars qui ont beaucoup trimé, qui ont beaucoup beaucoup travaillé. Et quand on a commencé à parler avec Jean-Laurent de travailler en bio, en biodynamie, ça s'est pas fait en rupture avec ce qui s'est fait dans le passé, puisque Denis et Jean-Louis, pareil.
Donc vos pères respectifs.
Ouais, nos pères respectifs travaillaient déjà d'une manière assez soft à la vigne. Encore une fois, quand on entend parler de culture raisonnée, eux, c'était raisonné, ils n'avaient pas d'argent. Donc, le moins ils en mettaient, le mieux ils se trouvaient. Quoi. La transition s'est faite finalement. On a mis le curseur un tout petit peu plus loin, mais elle ne s'est pas faite en rupture.
Tu évoques là, assez régulièrement des choix quand même économiques, mais est-ce que c'était une volonté philosophique ou ça a été aussi guidé par ça et petit à petit, naturellement, ça t'a conduit a conduit au bio et à la biodynamie?
Oui. Alors, on est dans un grand, profond respect de notre travail, de nos terroirs. Donc, c'était une suite logique par rapport à ce qui a été pratiqué dans l'idée du respect des sols que nous ont inculqué Denis Jean-Louis depuis toujours. Donc, voilà, c'était une suite logique. Et puis par nos rencontres aussi, on a rencontré, quand on a commencé à s'intéresser à ça, on a rencontré La Loubise de Roy, Noël Pinguet de Manuette, François Chidène qui était passé depuis un petit moment. Tout ça, ça a fait que très rapidement on s'est intéressé à la technique et voilà, et on y a été avec pas mal d'essais, on a essayé beaucoup de choses. Plus ou moins bien marché. Mais ça a permis de se poser plein de questions et d'avancer très fort. Mais voilà, on est dans une biodynamie quand même, somme toute, assez pragmatique, moderniste. Le côté ésotérique de la biodynamie nous passionne un peu moins que le côté efficace de la biodynamie.
Donc si je comprends bien, tu es dans une biodynamie davantage technique que philosophique. C'est le côté... effet, impact sur la vigne et le vin qui t'intéresse.
Voilà. Nous, notre but, hein, c'est quand même d'avoir des raisins, des beaux raisins qui ont du goût, qui soient jolis, sans pourriture, sans choses comme ça. Donc la biodynamie, elle est super intéressante parce que d'une part, quand on est passé en biodynamie, qu'on a commencé à s'intéresser à ça, ça nous a fait poser énormément de questions, rencontrer plein de monde. Et c'est ça la magie de la biodynamie, et c'est là que c'est efficace, c'est que ça fait poser plein de questions, on trouve des solutions à nos problèmes, et on va dans une voie qui nous amène vers quelque chose vers le vivant, la biodynamie, son côté, elle a un côté très très efficace, comme on le disait, et un côté parfois un peu trop ésotérique pour moi, à mon goût, à ma sensibilité, à notre sensibilité. Et donc du coup, ça nous excite un tout petit peu moins que le côté où on va donner de la vie dans les sols. Ça, j'arrive à comprendre plein de choses, mais voilà, s'il faut aller bosser quand Jupiter est en face de Mars ou Saturne, moi, je décroche un peu, j'avoue.
T'as vu un vrai impact entre avant 2006 et après alors, 2006
c'est difficile à dire parce que en fait tout ça est très très fin quand même. Et puis on a changé beaucoup de choses. On s'est tellement posé de questions, on a été tellement loin dans plein de sujets que on a changé plein. Alors pas tout en même temps, mais on a changé quand même beaucoup beaucoup de paramètres. Donc du coup, globalement, c'est positif parce qu'on s'est posé plein de questions et on s'en pose toujours. Mais de dire qu'il n'y a que la biodynamie qui a fait changer les choses, c'est peut-être un peu fort.
Est-ce que tu te souviens du début de cette démarche ? Est-ce que ce qui t'a motivé, c'était améliorer la qualité des vins, améliorer tes conditions de travail à la vigne ? Un peu tout ça.
Ouais, tout est lié. Hein. La vie, enfin notre vie, c'est le vin et la vigne. Hein. On y passe tout notre temps. Depuis plusieurs générations, c'est vraiment, on est ancré là-dedans. Donc, de toute manière, on s'intéresse un peu à tous les sujets. Hein. On essaie d'aller assez vite sur tous les sujets, de comprendre et d'aller assez loin. On se met pas tellement de barrières ni de limites. Hein. On est là, tout ce qu'on fait, c'est au service de la qualité du vin, de nos terroirs, de mettre en avant les terroirs. Donc, le début s'est fait vraiment par des rencontres. C'est ça ce qui a fait des rencontres d'hommes et de vins. On a goûté des vins qui étaient super en Miami et là ça nous a intéressé. Et puis comme on est dans une démarche permanente de respect des sols, de la matière première, des raisins, de l'humain, évidemment on a été vers la Miami et on est très heureux. Après c'est la Miami, ce n'est qu'un des paramètres sur lequel on a joué, on a travaillé, on a abordé plein d'autres sujets. Je dirais c'est pas un épiphénomène sur le domaine, mais c'est une partie de notre travail. C'est pas la totalité des choses.
Alors, quels sont les autres paramètres sur lesquels vous avez joué ?
Voilà, au niveau des vins, on s'est aussi posé beaucoup de questions, on s'en pose encore beaucoup. Hein. Vous êtes promené un peu dans le Sancerrois, c'est un monde. Le Sancerrois, je dirais, en règle générale, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, d'aller de l'avant. Donc, voilà, et ça bouge beaucoup en ce moment. On se pose plein de questions au niveau des vinifs. On commence à voir des gens qui travaillent un peu avec des malolactis, ce qui ne se faisait pas avant. Là, il y a la réduction du SO2 qui est un sujet qui est super passionnant. Voilà, on parle beaucoup d'oxygène dissous dans les vins. C'est aussi des sujets qui sont vraiment passionnants, qui font vraiment avancer la qualité des vins. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille, qu'on fait beaucoup d'essais. Et on ne reste pas figé dans un modèle. Alors, on a une signature au domaine. Il y a une signature sur les vins. Donc, on ne veut pas changer trop vite cette signature-là, le goût des vins, de nos vins. Mais par contre, c'est vrai qu'on fait pas mal d'essais pour être toujours dans quelque chose d'extrêmement qualitatif et efficace au niveau des vins, quoi.
Comment tu la décrirais, cette signature ?
Je dirais qu'on est tout le temps dans des vins qui sont assez tendus, mais dans une maturité, une belle maturité, mais dans la tension quand même.
Justement, les malots, là, vous les faites ou pas ?
Pour l'instant, non, parce que... Alors, des fois, on les fait, mais un peu malgré nous. Pour l'instant, non, parce que y a encore quelques sujets qui alors, les essais qu'on a faits ne nous donnent pas forcément les résultats qu'on aimerait avoir. On a encore ce côté un peu lacté dans les vins qui traîne, qui est un peu gênant au niveau du goût. Ce que n'ont pas les bourguignons, parce qu'ils ils partent avec de l'acide... Malique qui est beaucoup moins élevé, donc ils ont moins le problème. Mais c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui nous intéresse, comme l'oxygène dissous notamment, et puis les doses de SO2, qui est un sujet primordial, je dirais, aujourd'hui. En gros, c'est limiter les intrants et respecter le plus le vin dans ce qu'il est, quoi.
Tu aurais un moyen de limiter le taux d'acide malique au départ ? Tu aurais des clés pour
ça ? S'il y a du réchauffement climatique, naturellement, ça va se faire. Donc, voilà. Ça, et plus il fait frais, plus on a du malic, plus il fait chaud, moins on en a. Donc, naturellement, si les conditions continuent comme ça, le changement climatique, s'il est toujours dans ce sens-là, et si on arrive toujours à vendanger un tout petit peu plus tôt, il y aura moins de malic et les malots seront plus faciles à faire chez nous.
Tu as déjà parlé à plusieurs reprises de la Bourgogne. Mmh. C'est une région qui vous a beaucoup influencé.
Oui, énormément. Ouais.
Et notamment, qui a fait que vous êtes passé de 3 à 12 cuvées.
Ouais.
Vous faites un travail parcellaire assez précis. Mmh. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans ?
Alors, d'une part, je pense quand même que le travail parcellaire a permis de mieux comprendre nos parcelles. Enfin, on connaissait déjà pas mal les parcelles avant, mais qualitativement. Mais on arrive dans un monde de plus petit. Si on parle de parcelles d'un hectare, alors les Romains, ça fait 10 hectares, mais on sélectionne les meilleurs dedans. Donc ça permet de mieux comprendre la parcelle, d'aller plus loin dans la compréhension et de progresser qualitativement, mais ça fait progresser l'ensemble des vins. C'est pas que cette parcelle-là. C'est on va dans l'infiniment petit et donc du coup dans quelque chose de grande précision, quoi. Et c'est vraiment super excitant de partir là-dedans parce que voilà, c'est quelque chose qui a du sens de travailler sur un petit terroir, de le comprendre de mieux en mieux année après année. Et d'ailleurs, quand on parle avec des Bourguignons, on s'aperçoit très bien quand ils décrivent leur terroir, leur vin. D'un vigneron à l'autre, c'est le même terroir, mais il va y avoir les mêmes descriptions de style. Et c'est ça qui est assez génial. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir du Sancerrois. Et c'est ce côté travail sur l'infiniment petit, quoi. C'est génial, quoi.
Comment ça a été perçu au départ quand vous êtes lancé dans le parcellaire ? C'était pas trop l'identité de Sancerre ? Et par vos amis vignerons ou vos collègues vignerons et par les gens qui ont le plaisir de déguster vos vins ?
Alors déjà ça s'était fait avant nous, hein. Il y avait quelques domaines alors qu'il l'avait fait, soit il y a longtemps, soit il en faisait encore sur certaines parcelles. Mais nous, je ne sais pas trop ce que les gens en ont pensé, hein, mais je dirais que force est de constater qu'après une petite vingtaine d'années, il y en a beaucoup qui se lancent dedans, donc ça ne va pas être si mal que ça.
Tu aurais envie d'aller encore un peu plus loin dans le parcellaire là, par exemple, tu disais que les Romains, c'était 10 hectares. Est-ce que tu aurais envie d'isoler un endroit des Romains qui deviendrait une cuvée particulière ou là, tu estimes que le travail est déjà quand même bien avancé ?
Oui, alors pourquoi pas, hein, un mésoclimat, on appelle ça, mais ça pourrait être super intéressant. Mais je dirais que pour l'instant, on se concentre sur autre chose. Ça fait déjà. En fait, il faut quand même du temps pour implanter un lieu-dit, pour qu'il y ait une résonance auprès des clients. Donc, faut pas se précipiter à vouloir sortir trop de lieux-dits en même temps. Voilà, il faut y aller step by step. Et puis voilà, on a quand même déjà. Cet lieu-dit, il faut déjà certainement parce que c'est après c'est beaucoup d'épicerie quoi, hein, c'est beaucoup plus de travail, c'est de l'engagement, voilà, il faut quand même déjà maîtriser les choses, pas s'éparpiller trop non plus parce que voilà, faut déjà bien se concentrer, bien faire les choses, c'est déjà pas mal.
Les Bourguignons sont allés un peu plus loin puisqu'ils ont classé ces climats. Mmh. Est-ce que c'est une idée qui court à Sancerre ou qui n'est pas d'actualité ou même pas dans l'esprit ?
Il y a une grosse actualité, c'est que voilà, il y a eu un gros travail de fait par l'ensemble des vignerons sur la réflexion autour des lieux-dits, comment les encadrer, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on ne parle pas de cru parce que je pense que c'est pas le sujet, je pense que l'histoire c'est pas écrite comme ça, donc mais il y a un gros travail de réflexion qui a été animé, qui est toujours animé, qui est avec des idées plus ou moins convergentes, mais en tous les cas c'est vachement intéressant parce que ça sensibilise tout le monde à la qualité, à ce monde des lieux-dits. Et je crois que rien que le fait d'en parler, c'est extrêmement positif.
C'est quoi les pistes de réflexion qu'il y a sur cet encadrement là, ou sur les possibilités d'encadrement ?
Alors, c'est déjà une meilleure connaissance des lieux-dits qui sont qualitatifs, la connaissance des sols, de l'exposition, où commence ou s'arrête un lieu-dit. Ça paraît tout bête, mais combien il y a d'hectares de Romains, combien il y a de vignerons qui ont ces parcelles-là, combien de personnes ont isolé ces parcelles-là. Donc ça, c'est déjà une histoire qu'il faut connaître, des chiffres qu'il faut avoir. Et puis après, caractériser ce que ça donne dans les vins, c'est aussi très intéressant de savoir si tout le monde retrouve les mêmes caractères. Ça, c'est super intéressant. Et après, bah, y a les réflexions sur dire, voilà, les rendements, voilà, est-ce qu'on gère, est-ce qu'on parle d'élevage plus long, tout ça. C'est autant de sujets qui sont vachement passionnants, où il faut faire évoluer peut-être tout doucement, peut-être pas trop rapidement, pour que tout le monde se mette au diapason. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment essentielle et passionnante.
Est-ce que ce travail que vous faites au domaine là, d'identification des lieux-dits et de cuvées parcellaires, c'est un moyen aussi de multiplier les émotions ?
Alors oui, et alors indéniablement, on va avoir des vins qui sont différents d'un lieu-dit à l'autre. Ce qui est assez intéressant, c'est que en ayant la même technique de travail à la cave, en fait, au départ, quand on a mis en place les lieux-dits, quand on a eu les Romains, bon, voilà, on avait les Romains, on s'est posé la question de se dire, mais est-ce que tous les ans, on va avoir le même rendu ? Est-ce que tous les ans, on va avoir le même style sur la parcelle ? Et quand on a développé les lieux-dits, on a eu peur, justement, de ne pas retrouver cette identité qui doit être très forte sur un lieu-dit. Et en fait, on l'a retrouvée tous les ans, avec des différences par rapport au climat. Mais ça, c'est super intéressant, parce que finalement, on va avoir... Nous, chez nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est le lieu-dit qui décide, c'est le lieu-dit qui parle, quoi. Et ça, c'est absolument génial, parce que, évidemment, c'est des vins qui vont être sur des moments différents, qui vont évoluer différemment aussi. Et voilà, donc avec la cuisine, c'est génial, on peut s'éclater, quoi.
C'est quoi l'identité des Romains, par exemple ?
Alors, les Romains, on est quand même sur des vieilles vignes, des sélections massales. Et l'identité des Romains, c'est quand même un vin qui a toujours pas mal d'épaules, de masse, de volume. Et on finit par le biais des silex. Hein, c'est toujours, les silex donnent toujours pas mal de tranchants en fin de bouche, de minéralité. Et donc, on va retrouver beaucoup d'énergie. Alors, je préfère parler d'énergie que d'acidité, parce que pour moi, l'énergie, c'est la combinaison de la minéralité, de l'acidité. Voilà, et du terroir. Donc, ouais, j'aime bien parler d'énergie parce que je trouve que ça caractérise bien ce que doit avoir un vin en fin de bouche à Sancerre. C'est ce côté punchy, quoi, qui ça n'empêche pas d'avoir du gras et du volume en milieu de bouche, quoi.
Et ça évolue comment dans le temps ?
Eh ben, ça, vous verrez tout à l'heure, mais ça évolue. C'est des vins qui évoluent vraiment très très bien. Je dirais que dans les 10 ans, c'est là qu'on a le bon équilibre, dans le sens où on a encore la minéralité et la fraîcheur, et on a pris du gras. Et voilà, ça c'est vraiment génial.
Comment ça se travaille en cave, un vin comme ça ? Alors j'imagine que ça dépend forcément toujours du millésime, mais quand même, est-ce que tu retrouves une sorte de trame, de colonne vertébrale d'une année sur l'autre ?
Alors, on retrouve une ligne directrice. Il faut toujours faire très, très attention à la date de récolte. Hein. Ça va vraiment énormément influencer le type de vin qu'on va faire. Et dans la vision de la vinification, enfin, le vin, c'est un esthétisme. Alors, je crois vraiment qu'il faut... la date de récolte, ça reste quelque chose de primordial par rapport à un schéma de travail, une philosophie qu'on a, une envie de faire un certain type de vin. Il faut vraiment pas se planter sur, et notamment sur les silex, il faut pas se planter sur la date de récolte.
Oui, parce que le Sauvignon, c'est un cépage récolté trop tôt, qui a un côté variétal assez prononcé, et récolté trop tard, qui a l'acidité qui plonge un petit peu rapidement, quoi.
Voilà, et surtout sur les silex, si l'acidité a la plongée, les calcaires vont se tenir peut-être un petit peu mieux dans les hautes maturités que les silex. Dans les hautes maturités, il va être un petit peu plus ennuyeux. Donc il ne faut pas se planter sur... faut le prendre un peu al dente, le Sauvignon sur silex, pour avoir quelque chose de vibrant.
Et à l'inverse, là on a parlé des Romains, donc qui est une parcelle... relativement, qui donne des vins avec de l'épaule. Sur quelle parcelle tu aurais les vins les plus fins ou les plus en dentelle ?
Alors en dentelle, nous on a beaucoup de minéralité. Alors je dirais que Paradis et Guinchèvre, sur des calcaires, là on a énormément, on a des textures de bouche qui sont très très intéressantes. C'est un peu ce côté dentelle qu'on parle de dentelle, mais pour moi, c'est plus ces textures. On a beaucoup travaillé sur le toucher de bouche, en fait, qui est pas quelque chose qu'on parle beaucoup forcément en viticulture, mais le toucher de bouche, on en parle plus en cuisine. On a pas mal travaillé dessus parce que ça nous semble quelque chose de super, super important. Et voilà, d'avoir du gras, mais dans l'équilibre, d'avoir une bouche équilibrée jusqu'au bout. Et ce côté tactile, nous plaît beaucoup. Quoi.
Là, tu fais écho à des discussions qu'on a eues avec Pascaline Le Pelletier récemment, qui nous a beaucoup parlé de toucher de bouche, de dynamique de bouche notamment.
Oui, alors peut-être, oui, j'ai dû louper cet épisode-là parce que je ne l'ai pas entendu, mais on a beaucoup travaillé dessus. En fait, on a retravaillé un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire sans débourbage ou presque pas de débourbage, pour retrouver ces textures de bouche, ce gras. Voilà, c'était un truc qu'on avait remarqué, qu'on aimait bien chez De Vignerons Bourguignons, et on a beaucoup gratté et ça nous a vraiment bien inspiré, quoi.
Est-ce qu'il y a des étapes de la vinification qui ont un impact direct sur un moment dans la bouche, justement? Est-ce qu'il y a une étape qui va plutôt guider l'entrée en bouche? Est-ce qu'il y a une autre étape qui va finir d'allonger le vin? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça?
Oui, alors, je ne sais pas si c'est extrêmement scientifique, mais voilà, nous, c'est notre ressenti, c'est ce sur quoi on a travaillé. Donc, les débourbages, évidemment, ça va impacter énormément le goût des vins. Voilà, le gras ou quelque chose de plus tendu, si on éclaircit les vins très très fort, on va avoir des vins qui sont très subtils, très délicats, mais qui peuvent manquer aussi un petit peu de matière. Donc voilà, ça, le levurage hein, ou pas, c'est des choix qui sont importants parce que ça, même si on utilise des levures neutres, ça va donner plus ou moins un style hein, dans les vins. Donc ça, c'est aussi impactant énormément. Hein. Et puis après... Je dirais que les températures de fermentation, on peut jouer aussi un petit peu. Nous, on fait des grandes préfermentaires à froid. Pareil, ça donne du gras. Aromatiquement, c'est assez intéressant. Voilà, c'est autant de choix qui vont impacter le vin. Et surtout le Sauvignon, qui est un cépage qui est à la fois, d'un côté, qui peut être assez facile, mais à la fois qui est assez compliqué quand on veut amener vers quelque chose de très grand. Parce qu'on a l'habitude du Sauvignon... Tout le monde connaît le Sauvignon, mais personne ne connaît le Sauvignon, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, c'est assez intéressant de ce cépage-là, parce que peut-être qu'on est au balbutiement de nos connaissances sur ce cépage qui est très sexy par son côté frais, aromatique, mais qui parfois on passe à côté parce qu'on a l'impression que c'est que la fraîcheur. Et le Sauvignon, c'est pas que la fraîcheur, ça peut être profond, il peut y avoir du gras...
Tu as utilisé le joli mot d'esthétisme, qui est un mot assez fort quand même.
Ouais.
Quelle esthétique tu veux transmettre avec tes vins?
Alors, moi, j'aime beaucoup quand les vins restent assez purs, assez droits. À titre personnel, j'aime beaucoup l'Arte Povera parce que on se rapproche de quelque chose de vrai, avec peu de gestes, avec peu de choses, hein, finalement, réussir à faire quelque chose de beau et en tous les cas de percutant. Et je trouve que, à Sancerre, et dans nos vins, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à transmettre ce côté terroir et de quelque chose d'assez pur. Et on le voit dans tout le travail qu'on fait, c'est d'essayer d'en faire de moins en moins. Et c'est finalement peut-être ce qui est le plus difficile, de simplifier les choses. Et de mettre le moins d'intrants possible dans les vins, c'est un graal, mais il ne faut pas le faire n'importe comment.
Ce geste-là de la moindre intervention, est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière de transmettre le terroir?
Oui, en tous les cas, alors c'est pas la moindre intervention, c'est des interventions qui sont extrêmement raisonnées. Je pense que moins on touche le terroir, mieux il se porte. Hein. De laisser un peu d'herbe, c'est vachement important parce que ça structure les sols, ça apporte de la vie microbienne, de pas trop travailler en profondeur les sols aussi. Donc on a vraiment allégé tous ces travaux qui étaient des travaux lourds, de travail du sol en profondeur. Maintenant, c'est devenu des choses très légères, c'est chirurgical. Voilà, là, on arrive vraiment, on fait nos composts nous-mêmes. Tout ça, c'est super important parce qu'on se rapproche réellement de l'origine des choses. Quoi. C'est vraiment intéressant. Quoi.
Et en cave, ça marche de la même manière, cette intervention minimale?
Voilà, oui, on a élagué beaucoup de choses. Hein. On est vraiment maintenant dans quelque chose de... Voilà, des gestes, il n'en reste plus beaucoup, hein, finalement. Hein. On s'approche et on va de plus en plus loin là-dedans. Alors, ça demande énormément de compréhension, pas mal d'essais, des prises de risques parfois. Mais on va tout doucement vers ça. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas griller les étapes. Donc, nous, on n'aime pas trop les marches arrière. Il faut y aller petit à petit, mais sûrement, et bien comprendre ce qu'on fait, quoi.
Alors, je voudrais essayer de développer une idée que tu m'as mise dans la tête tout à l'heure quand on visitait la cave. Je vais essayer de m'exprimer clairement. Mmh. C'est une idée. Cette idée-là d'intervention minimale, on en entend beaucoup parler. On a parfois l'impression, et notamment quand on goûte les vins, que finalement, c'est aussi un peu de paresse ou de travail pas très rigoureux, quoi. Ça m'a marqué tout à l'heure quand tu nous as montré les cuves de 500 hectos non, pour les rouges. 50 hectos pour les rouges, oui. Et où tu nous as dit finalement, on a quasiment plus besoin de toucher le raisin une fois qu'il est dedans, plus besoin de piger. Est-ce que le fait d'intervenir très peu, ça demande une plus grande préparation en amont?
Beaucoup de réflexion en amont et d'avoir une idée assez précise d'où on veut aller dans la qualité des vins. Donc ça, c'est le fruit. Généralement, quand on arrive vers ça, c'est le fruit d'énormément de réflexions. Pas des réflexions de 1 ou 2 ans, c'est des réflexions sur du long terme. Et c'est encore une fois, c'est beaucoup de travail, de réflexion, d'analyse, de choix techniques et de choix assez forts en général, de prise de risque aussi. Donc oui, pour moi, c'est essentiel de se rapprocher de ça. Alors après, il ne faut pas aller trop loin non plus, parce que faut pas se griller les ailes avec des vins qui sont un peu partis dans tous les sens. Hein. Nous, on aime la précision, mais voilà, il faut faire attention à ça.
On parle pas mal de Sauvignon Blanc, qui est un cépage, qui est un super support aussi pour d'autres styles de vins un peu plus sucrés. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui sont ici dans ce caveau-là. Comment ça t'est arrivé de faire... donc on voit VT, j'imagine que ça doit être Vendange Tardive. Comment ça t'est arrivé de faire ça sur des millésimes? J'en ai vu un qui n'était pas si vieux que ça, c'est 2007 je crois.
L'idée avec Jean-Laurent, c'était d'essayer d'un peu mieux comprendre le Sauvignon, comment il évolue, parce qu'on a une idée de comment on a envie de le récolter, à quelle maturité, mais finalement de se poser la question, de se dire comment ça va évoluer après, c'est vachement intéressant dans la connaissance du Sauvignon. Et puis c'est aussi vachement intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le Sauvignon dans l'extrême, quoi. Et il faut tutoyer l'extrême souvent pour réussir à trouver son équilibre. Donc c'était cette réflexion-là. En plus, ça a donné l'occasion de faire des bons gueuletons avec les copains, quoi, surtout.
C'est un terroir de sucre aussi, le Sancerrois, possiblement?
Alors, on arrive à sortir des trucs très, très intéressants, hein, des vins avec beaucoup d'équilibre. Alors, il ne faut pas aller chercher trop de sucre non plus parce que ça ne lui va pas trop. Bon, déjà, ça ne pourra pas être du Sancerre, hein, parce qu'on est au-delà des 4 grammes de sucre, c'est plus du Sancerre. Mais en tous les cas, oui, ça donne des vins assez intéressants dans l'équilibre. Bon, voilà, notre passion, ce n'est pas le sucre, hein, mais c'est plus la connaissance du Sauvignon, quoi, je dirais.
À l'inverse de Florian, qui lui a une vraie passion pour le sucre. Voilà.
Chacun ses petits défauts.
Puisqu'on parle d'essais ou de certaines extrémités pour comprendre un cépage, il y a des personnes là, dans le coin qui ont fait des essais, notamment de macération, ou même qui se sont engagées très fortement dans la macération du Sauvignon. Est-ce que c'est une voie que tu as déjà explorée? Est-ce que c'est une voie qui t'intéresse?
Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été sur le Sauvignon, d'après ce que j'ai goûté. Je n'ai pas trouvé de trucs qui m'ont beaucoup plu, mais c'est à titre personnel et c'est qu'une histoire de goût. Donc, non, ce n'est pas une voie dans laquelle on s'est lancé. On a des sujets qui nous passionnent un petit peu plus que ça pour l'instant. Pourquoi pas, c'est, toutes les voies peuvent être intéressantes, hein, mais c'est pas la nôtre.
Alors on parle de Sauvignon, il y a aussi le Pinot Noir, sur lequel vous faites un travail très précis, parcellaire. Ouais. C'est quoi l'identité du Pinot Noir du domaine?
Alors, déjà, le pinot noir à Sancerre, déjà, faut le définir un peu ou essayer de le définir. Je pense que le pinot noir à Sancerre par rapport à la Bourgogne, si on le compare à la Bourgogne, on pourrait le comparer à l'Alsace, mais bon, on regarde nous avant vers la Bourgogne. Ça fait des pinots qui sont souvent un peu plus frais, un peu plus poivrés. On a souvent ce côté poivre épice qui est vraiment équilibrant pour les vins. On a aussi probablement un petit peu moins de gras, de matière naturelle que ce que peuvent avoir les bourguignons dans les beaux terroirs. Donc voilà, ça c'est déjà la trame de ce qu'on a sur le pinot noir à Sancerre. Et après, le style vacheron, je pense qu'avec Jean-Laurent, on est tout à fait d'accord sur ce qu'on aime en Bourgogne et aussi ce qu'on aime dans nos vins. Dans les pinots, en tous les cas, c'est ce côté élégant, raffiné. Et encore une fois, on ne cherche pas à avoir des vins, des monstres, des bêtes. On ne cherche pas à faire de la Syrah avec du pinot noir. Nous, ce qu'on veut, c'est ce côté, parfois presque le côté, pas flué, mais voilà, ce côté très, très, très fin, nous va très bien. Et je crois que le pinot noir sert à ça.
Tu parlais d'aller tester les limites du Sauvignon Blanc là, tout à l'heure. Est-ce que le réchauffement climatique là, fait que certains pinot noirs, en tout cas dans le Sancerrois, montent quand même pas mal en alcool? Est-ce que tu as un petit peu peur à un moment d'atteindre la limite du pinot noir sur cet aspect-là? Parce que quand c'est alcooleux, c'est un peu moins. Ouais. Il perd cette élégance.
Ouais, ouais. Oui, bah, il faudra faire attention avec le temps. Alors là, on a eu quand même 18, 19, 20 des millésimes qui étaient quand même assez chauds, avec pas mal d'alcool, hein, parce qu'on a tutoyé des 14, voire un peu plus. Bon, les vins s'en sont quand même pas trop mal sortis, hein, je dirais. Alors, on n'est pas sur ce côté, sur un 2017, tout en finesse, D'ailleurs, on en goûtera un tout à l'heure, parce que pendant qu'on en parle, ça fait envie. Mais voilà, on a ce côté... Voilà, ça a donné des vins avec un tout petit peu plus de corps, ce qui est pas mal aussi, une fois de temps en temps. Mais voilà, je dirais que là, pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Il faudra peut-être trouver... voilà, on a encore quelques petites techniques à développer au niveau de la vigne pour limiter l'impact du réchauffement. Voilà, bon, il faut voir comment ça évolue, quoi. Pour l'instant, je pense que les vins s'en sortent plutôt pas trop mal.
J'aimerais qu'on change de sujet et qu'on dézoome un peu, qu'on parle de Sancerre dans son ensemble. C'est une appellation qui marche très bien, qui a une renommée en France et à l'international qui est bonne. Commercialement, ça marche très bien aussi. C'est quoi les enjeux pour l'appellation aujourd'hui et pour les années à venir?
Alors, je pense que les enjeux pour l'appellation, enfin, je pense que le gros axe de travail pour l'ensemble des vignerons, c'est de faire des élevages peut-être un peu plus longs pour la plus grande masse des vins qui sont faits dans le Sancerrois. De manière à gagner des lettres de noblesse en termes de volume, de chair. Le Sauvignon, c'est souvent un cépage qui peut être un peu faiblard en milieu de bouche, un peu creux en milieu de bouche. Donc pour aller chercher le gras, le volume, c'est vachement intéressant de travailler sur cet axe-là. Et puis la gestion des stocks, qui est une chose primordiale, de peut-être décaler un peu les ventes pour pas vendre trop tôt les vins, pas les mettre trop tôt sur le marché. Mais pour réussir à faire ça, il faut réussir à avoir des stocks et voilà, décaler les ventes. Donc ça, c'est vachement important en termes qualitatifs. Souvent, les vins de Sancerre sont bu trop jeunes. Donc il faut, au-delà d'éduquer le consommateur à boire les vins de Sancerre, avoir une vision du vin de Sancerre un peu différente. C'est ça les enjeux d'aujourd'hui ou de demain. Quand on goûte un Sancerre qui a 10 ans, franchement, on s'éclate. C'est des grands vins, quoi. Et c'est dommage de les boire trop tôt, quoi. C'est plus le Sancerre qu'on connaissait, qui était le Sancerre qui était bu sur les Ingues à Paris et tout ça. C'est une idée qui est totalement différente. On a des grands terroirs, on le sait, ça fait des grands vins. Il faut s'habituer à les boire comme des grands vins, c'est-à-dire pas trop jeunes. Ça ne vient pas l'idée de boire un Bourgogne ou un Côte-Rôti l'année où il a été mis en bouteille, quoi.
Est-ce que malgré le succès et la réputation actuelle, tu penses que c'est une région qui est encore sous-évaluée ou en tout cas que les vins sont encore sous-évalués?
Oui, je pense que c'est encore sous-évalué, mais on a aussi un travail encore important à faire. de tout ce qu'on vient de parler. Mais oui, on est encore sous-évalué. Il y a un travail énorme qui a été fait et je pense qu'on peut encore aller plus loin de manière d'affiner encore un petit peu plus les choses.
Et cette idée-là de décaler les ventes, c'est avant tout une idée gustative de qualitative? Ou c'est aussi, comme tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure hors micro, une idée aussi d'assurance contre les aléas climatiques?
Il y a tout, je dis oui à tout. Oui, alors déjà, d'avoir une assurance climatique, c'est bien d'avoir un petit peu de bouteilles en stock. Et puis, ça permet de lisser les ventes. Et puis, en termes gustatifs, ça permet d'avoir des vins un tout petit peu plus mûrs, un peu plus posés. Voilà, des fois, le côté sauvignon éclatant sur le fruit qui pète dans tous les sens, ça, parfois, ça peut être. Il y a certains moments où ça le demande et il y a d'autres fois où c'est un peu répétitif, quoi. Voilà, on a envie d'aller chercher des vins plus mûrs, c'est sympa, quoi.
Les Néo-Zélandais le font très bien et vous êtes content de leur laisser, c'est ça,
hein? Alors, ils jouent très bien au rugby, mais ça, ils savent le faire aussi, ouais.
Tu parlais de l'éducation des consommateurs à des sancerres qui ont un peu plus d'âge. Comment tu t'y prends, toi, dans le domaine pour amener cette idée-là, qui va un petit peu à l'encontre de l'image que tu évoquais aussi, là, du sancerre posé sur le comptoir? Et tu nous as dit que tu étais investi dans le syndicat. Comment, collectivement, vous travaillez aussi à changer cette image-là?
Alors, au sein du domaine, c'est d'essayer de... La meilleure manière d'éduquer et de forcer un peu parfois les choses, c'est de décaler, de proposer des millésimes un peu plus vieux à la vente, c'est-à-dire de décaler gentiment les ventes, de proposer des millésimes un peu plus vieux, quoi. Et d'en garder aussi et d'en proposer à la vente pour les restaurants, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans un restaurant, c'est qu'il y a un sommelier qui connaît les vins, qui va déboucher, qui pourra expliquer. Donc, il est prescripteur d'une qualité quelque part et il va savoir expliquer un vieux millésime. Autour d'un vieux millésime, il faut souvent une histoire. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, on lâche quelques bouteilles parfois à des sommeliers qui sont avertis sur le sujet pour éduquer gentiment, aller vers des vins plus mûrs. Et après, collectivement, c'est de changer un peu la manière dont on communique et pour prendre un axe de communication un peu différent, que ce soit par rapport au lieu-dit, par rapport à l'éducation, justement, de faire des dégustations thématiques autour de vieux millésimes. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on commence à impulser de manière assez subtile au sein de l'interprofession.
C'est important d'être sur les belles tables, voire les très belles tables.
Alors, oui, c'est important parce que le vin, c'est très, très bon à l'apéro. Hein, c'est génial, mais quand on l'associe avec un plat, c'est encore plus excitant. Et oui, c'est important parce que on est dans des conditions optimum pour apprécier le vin, pour le mettre en avant. Alors, il y a les accords et les désaccords. Hein, on n'est pas obligé de faire un accord d'accord, mais on peut faire un accord où on va jouer sur les différences. Et ça, c'est intéressant parce que qu'on le retrouve sur une table avec un environnement sympa, des copains, un sommelier qui vaut le coup et une très belle cuisine. Franchement, c'est l'endroit idéal, quoi.
Tu peux nous parler d'un resto qui t'a marqué récemment ou alors d'un accord qui t'a marqué avec un T20?
Il y en a beaucoup, c'est compliqué.
T'as de la chance.
Ouais. Alors, y a, avec le Sancerre et comme on le fait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Je trouve que la cuisine un peu japonisante, avec des produits assez bruts, encore une fois, ça me convient bien, souvent. Oui, je dirais que la cuisine qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire assez dépouillée, avec souvent des notes acidulées, comme on peut retrouver chez la Maison Trois Gros, par exemple, avec des légumes qui sont assez croquants, des choses assez des sauces un peu acidulées, des petites épices, ça fonctionne très très bien avec nos vins et ça met vraiment nos vins en avant, quoi.
Ce que tu nous décris sur Sancerre, sur la qualité des vins, sur le fait de les faire vieillir, est-ce qu'il y a matière à emmener aussi les autres appellations du Centre-Loire dans cette voie-là?
Oui. De toute manière, on est dans le centre Loire quand même globalement. Toutes les appellations sont tournées autour de la fraîcheur. Et qui dit fraîcheur dit souvent un niveau d'acidité qui est pas mal. Et ça amène souvent des vieillissements qui sont très bons. Toutes les appellations ont un gros travail à faire au niveau de la qualité des vins et du vieillissement surtout. Mais pour avoir du vieillissement, il faut à la fois des vins mûrs en ayant préservé de l'acidité. Et ça, c'est un travail de vigne. Alors, le sujet de la levure, c'est un sujet qui est bien connu par les techniciens, par un peu tout le monde. Mais souvent, les aficionados des vins nature et autres peuvent être un petit peu choqués quand des personnes utilisent des levures. Quoi. Et il y a un petit peu un mythe autour de tout ça, avec un petit peu un monde d'incompréhension. Voilà, on a envie d'apporter, de donner beaucoup d'importance à des levures parfois, alors que ça n'en a peut-être pas tant que ça, ou peut-être que ça en a, mais en tous les cas, c'est souvent des sujets de crispation entre les pour, les contre, les voilà.
Mais toi, t'es assez détendu sur ce sujet-là. Là.
Non, je pense qu'il y a des fois où c'est plus raisonnable de levurer parce que les conditions sont pas bonnes, parce que les raisins n'étaient pas au rendez-vous ou il y a trop d'alcool et que tu sais que ça va planter. Donc des fois, vaut mieux prendre l'aile devant et puis assurer une fermentation, une bonne fermentation, que de prendre des risques et puis de bousiller un vin parce qu'il va mettre extrêmement longtemps à fermenter ou qu'il va y avoir un accident avec de la volatile. Voilà.
Au final, tu l'utilises que quand tu as un risque avéré ou est-ce que tu l'utilises de manière un peu plus large?
On l'utilise quand il faut l'utiliser, quand il y a beaucoup d'alcool et qu'on sait que la souche locale ne va pas faire le job.
Est-ce que c'est aussi parfois le problème de fermentation, un problème de manque d'azote? Et question corollaire, si tu me dis oui, est-ce que les années chaudes, est-ce que le manque d'azote c'est lié avec les années chaudes et ou les taux de sucre élevés?
Non, c'est souvent lié à l'alimentation qu'a eu la vigne. Si elle est vigoureuse ou pas, on va avoir plus ou moins d'azote. Et c'est vrai que dans les années chaudes, s'il y a un stress hydrique, il peut y avoir un tout petit peu moins d'azote. Mais sinon, c'est plus l'état d'équilibre de la vigne qui va jouer là-dessus. Voilà, donc après, c'est vrai que c'est un facteur. S'il n'y a pas d'azote, la levure va peiner à faire le travail correctement, mais... Bon, en règle générale, ça se passe plutôt quand même pas mal, quoi.
On peut reprendre un tout petit peu le fil et comme ça on termine et après on est tranquille.
Ouais. Je rebois un coup.
Allez. Je voudrais qu'on parle de tes goûts un petit peu en matière de vin pour finir. C'est quoi les vins qui t'émeuvent?
Alors, incontestablement, moi, je vais vers la Bourgogne, mais il y a plein d'autres vins. Hein. Je parle souvent de Bourgogne, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les vins de la vallée du Rhône, de la Loire. Il y a plein... Tout ce qui est bon m'intéresse, je dirais. Quand c'est de la haute volée, c'est vraiment quand même assez souvent génial. J'aime beaucoup la Bourgogne parce que, bon, d'une part, on a le Pinot Noir qui nous lie et j'aime beaucoup les pinots noirs très élégants, très fins, avec finalement très peu de matière. Ah, ça donne des fraîcheurs incroyables en bouche. Ça, j'adore ça. Et finalement, c'est peut-être un petit peu plus rare qu'avant, mais c'est vraiment le style de vin que j'aime. Et puis, il y a un chardonnay, comme on le connaît, comme on les connaît quand c'est vraiment très, très bien fait. Voilà, peut-être des fois un peu en limite de réduction. Avec du gras, comme ce qu'on peut trouver à Chassagne, par exemple. Je suis vraiment épaté par la qualité des vins quand c'est comme ça.
Il y a des vignerons là, qui te viennent en tête, que tu pourrais citer?
Oui, alors il y en a plein. Ça va être, je ne peux pas tous les citer. Parce
c'est
que,
pas pour te faire des ennemis hein, quand ouais, cette
non,
question.
Non, du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'adore. Moi, j'adore le domaine Pierre-Yves Collin parce que d'une part, on était à l'école ensemble, on se connaît très très bien. Et puis le domaine Ramonet aussi m'épate beaucoup parce que c'est un domaine qui a toujours une grosse résonance dans le sens où ils sont toujours dans des vinifications vraiment qui n'ont presque pas bougé depuis le grand-père. Et ça, c'est vraiment épatant parce que les vins sont toujours pertinents, quoi. C'est très, très bon. Et voilà, c'est deux styles de vins très différents. Un plutôt basé sur la réduction de luxe et avec des très, très belles matières, très fines. Et puis le domaine Ramonet avec du volume. Et des vins avec beaucoup de profondeur, donc moi j'adore.
Si on regarde de l'autre côté, là où penche Sancerre, enfin l'autre région à laquelle vous êtes lié, c'est la Loire quand même. Il y a des vignerons dont tu pourrais nous citer là qui t'ont ému.
Alors j'adore le domaine de Thibaut Boudignon. On en parlait tout à l'heure à Savenière. Je trouve que c'est un vigneron qui va très très loin dans son raisonnement, qui pousse. Jusqu'au bout les raisonnements, que ce soit au niveau viticole dans ses choix et au niveau de la cave. Et voilà, ça c'est un domaine qui est assez marquant à l'heure actuelle pour moi.
Avant que tu nous fasses le plaisir de déguster quelques-uns de tes vins, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais?
Oui, je trouve qu'au domaine Vacheron, avec Jean-Laurent, avec mon père Jean-Louis et mon oncle Denis, je trouve qu'on a un domaine, on a réussi à mettre les choses en place comme on le souhaitait, avec une qualité qui nous intéresse. On est toujours en progression, c'est ce qui est primordial. Et avec Jean-Laurent, on est toujours à la recherche d'une évolution, d'une qualité maximum. C'est pour ça qu'on va à la rencontre de pas mal de vignerons dans pas mal d'autres régions, parce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe et on veut aller plus loin. Donc oui, on a une forme d'équilibre à l'heure actuelle qui est assez intéressante humainement et dans les vins.
Merci beaucoup, Jean-Dominique.
Merci à vous.
Générosité, joie et finesse. Voilà quelques qualités que nous pouvons attribuer à Jean-Dominique. Et au vin du domaine, nous avons pris un pied phénoménal tant sur les Sauvignons que les Pinots, avec des vins qui vieillissent merveilleusement bien et dévoilent tout leur charme au fil des années. On ne peut que vous conseiller d'aller faire un tour dans cette région et de déguster les vins des Vacherons. Merci Jean-Dominique pour ce moment unique et ce délicieux tour d'horizon des vins du domaine. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !